Presse, une émission produite en synergie par Trois Médias, la radio publique africaine, la radio Indamba et la radio télévision Renaissance.
Le Club de la Presse offre aux professionnels des médias et aux invités un espace de débat et d'analyse des nouvelles nationales et régionales.
Cette émission est aussi un cadre d'expression à l'autocritique et à une analyse sans complaisance du travail des journalistes burundais.
Retrouvez le Club de la Presse tous les vendredis sur le www.rpa.bi ou sur le www.nzamba.org et sur la page YouTube de la Télévision Renaissance.
La question de l'ouverture de l'espace démocratique, notamment dans le contexte électoral, est un essentiel, cette ouverture, qui touche à la liberté de la presse d'information et la capacité des partis d'opposition de pouvoir participer au processus électoral d'une manière libre. Deuxièmement, l'autre facteur qui touche à tout ce qui porte sur la question de l'impunité, donc de la justice, c'est-à-dire que pour nous, nous signalons que la manière dont ceux qui ont commis des actes de violation grave des droits de l'homme sont punis ou ne le sont pas, nous lançons aussi un message à la population burundaise en disant que nous savons aussi que la population vit depuis de trop nombreuses années une très grande souffrance et qu'il est absolument important que la population sache que la communauté internationale est mobilisée. La manière dont les pays de la région, dans la solution politique de la crise burundaise, le dialogue avec promeut, mais aussi la question des réfugiés.
C'était le président de la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi. Il s'exprimait à l'issue de la présentation du dernier rapport sur le Burundi devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève lundi dernier. Est-ce juste un rapport de plus, comme nombre d'observateurs se demandent? Depuis quelques mois, le monde semble observer ce qui se passe au Burundi dans un silence que certains défenseurs des droits de l'homme n'hésitent pas de qualifier de complice. Au même moment, des organisations de la société civile continuent de publier des rapports par semaine, par mois, rapportant des cas d'assassinats, de disparitions forcées ou encore d'arrestations arbitraires par centaines, des chiffres qui aujourd'hui semblent n'être que des chiffres qui ne meuvent plus personne. Le dialogue est relégué aux oubliettes. La question qui s'impose alors, le Burundi a-t-il été laissé à lui-même? C'est donc autour de cette question que vont débattre nos deux invités, Emmanuel Ndereyimana, secrétaire exécutif du parti UPD Ziganyibanga et porte-parole.
Non, pas porte-parole, chargé de questions de communication.
Chargé de la communication alors.
Oui, mais pas porte-parole.
Chargé de la communication de la coalition Sefort Arusha. Bonjour.
Bonjour.
Et merci de la correction.
Merci.
Nous sommes également avec Bonfils Niongere, journaliste à la radio Inzamba Gate Kakawe. Bonjour.
Bon après-midi.
Vous n'oubliez pas qu'il y a le coronavirus et donc...
Nous sommes lavé les mains juste avant
d'entrer. Merci beaucoup pour ce rappel également. On a besoin de temps en temps de rigoler, même quand on parle de questions aussi sérieuses que la politique. Bienvenue à tous les deux.
Merci.
À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue. Emmanuel Ndereyimana, la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi vient de livrer son quatrième rapport sur le pays. Que ressentez-vous à la publication de ces documents?
Merci beaucoup. C'est un rapport de plus sur tous les rapports déjà produits. Et ces rapports, ça vaut la peine, vous savez.
Parce que vous pensez que c'est un rapport de plus qui ne vaut pas mieux que les
non,
autres?
Non, ça va, parce que les bavures, c'est tous les jours, 10 jours au jour. Tant qu'il y aura bavure, tant qu'il y aura manquement, tant qu'il y aura quelque chose qui ne va pas au pays, c'est très important qu'il y ait des gens qualifiés, bien placés comme les Nations Unies, pour quand même nous dire, exposer aux yeux du monde et du Burundi en particulier, ce qui se passe réellement. Parce que vous savez, les organes de presse au Burundi sont limités.
N'empêche, est-ce que depuis le premier rapport, le deuxième, le troisième jusqu'à celui-là, est-ce qu'il y a eu un impact?
Impact jusque-là, on ne voit pas, parce que tout c'est entre les rapports jusque-là.
Et donc c'est pour ça qu'au début vous avez dit que c'est un rapport de plus.
Bien sûr, parce que même la communauté internationale, même tout observateur politique, que ce soit la région ou au Burundi, personne n'ose lever le doigt pour dénoncer, mettre en pratique ces rapports, pour dire trop c'est trop, cette fois-ci, et monsieur, vous le gouvernement, s'il vous plaît, changez d'attitude envers votre peuple. Jusque-là, il n'y a pas encore quelque chose dans ce sens. Mais les rapports, vraiment, sont les bienvenus, jusque-là.
Bonfils Niongere, les médias en exil, comme la radio Inzamba, se font toujours l'écho de ces rapports. C'est donc une bonne chose pour eux.
Je dis que c'est une bonne chose pour eux, puisque c'est d'abord informer le public qui a été privé de l'information, d'un droit pourtant reconnu par la Constitution, droit à l'information. Le gouvernement de Burundi, le gouvernement de Nkurunziza, en détruisant les médias indépendants, il voulait priver de la population toutes ces informations.
Mais est-ce que, quand vous parlez d'un droit à l'information pour la population, est-ce que ces rapports sont destinés à la population?
Non, ces rapports ne sont pas destinés à la population, mais la population a droit de savoir ces rapports contiennent quoi, le contenu de ces rapports.
C'est donc le rôle de ces médias.
Le rôle de ces médias, c'est de dire à la population le contenu des rapports, mais également de poursuivre l'objectif des rapports, mais aussi l'issue qui pourra venir d'ici peu ou longtemps. Vaut mieux tard que jamais, puisque en Kirundi on dit Akada tawe na okaja akabitswe ntikabora.
Pour dire quoi?
Pour dire qu'une chose qui n'est pas jetée et qui est conservée, il ne pourrit pas et ça va produire demain après demain
des effets. Ça peut produire des effets.
Et là, je suis optimiste.
Donc, et vous, personnellement, vous voyez les choses de la même manière que les médias?
Je pense oui, parce que nous avons vécu en Burundi qui a été endeuillé par des crises cycliques qui ont endeuillé le Burundi. Et des crises cycliques qui étaient avant 2015, ils n'avaient pas été répertoriés, tels qu'ils sont en train les violations des droits de l'homme sont en train d'être répertoriées aujourd'hui.
Emmanuel disait tout à l'heure que depuis le début, donc malgré la production de ces rapports, rien ne s'est encore produit. Est-ce votre avis?
C'est peut-être de l'impatience d'un Burundais épris de paix, d'un Burundais soif de la paix, du retour à l'état de droit. C'est l'impatience. Mais vous savez que le mécanisme de ces rapports, c'est une certaine forme d'alerte précoce au sein des Nations Unies, au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, que les crises, les graves violations des droits de l'homme continuent à se commettre du jour au lendemain au Burundi.
Oui, mais sauf que quand vous parlez d'alerte précoce pour quelque chose qui est en train de se passer, est-ce que c'est vraiment le cas? Parce qu'une alerte précoce, c'est par rapport à quelque chose qui peut se passer.
Oui. Lorsque les graves violations des droits d'homme continuent à se commettre comme ça, il y a les enlèvements, les disparitions forcées, les tueries, les emprisonnements arbitraires, quoi. Ça présage quelque chose de mal.
De pire que ce qui
pourra se produire. C'est pourquoi ces rapports est une forme d'alerte précoce au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mes chers amis, pointez votre doigt, votre œil sur le Burundi, puisque demain après demain.
C'est exactement les mêmes termes que Doudou Diène a utilisé, le président de la commission d'enquête sur le Burundi. Il a dit c'est pour alerter la communauté internationale, les Nations Unies, et leur donner les outils nécessaires pour pouvoir suivre de près avec précision ce qui est en train de se passer au Burundi. Emmanuel, vous échangez certainement avec d'autres hommes politiques, d'autres femmes politiques, et surtout aujourd'hui que vous êtes dans une coalition qui rassemble beaucoup de formations politiques, je veux dire autant sur les rapports de la commission d'enquête que sur ceux des autres organisations de la société civile comme ACAT, la Ligue ITK encore et SOS Torture, qu'en disent-ils?
Écoute, toutes ces organisations que tu viens de citer, sont là, ils travaillent d'arrache-pied pour le retour de la paix au Burundi. Mm. Et comme mon ami vient de le dire, ces rapports sont des signaux d'alerte. Mais on alerte une fois, on alerte deux fois, on alerte quatre fois.
Mm. Mais jusqu'à quand?
C'est là où on se pose la question. Est-ce que ces rapports, aux gens à qui sont adressés, et pourquoi ils ne lèvent pas leurs petits doigts? Est-ce que le peuple burundais est abandonné? Est-ce que il y a moyen de se poser mille et une questions? Ce n'est pas de l'impatience. Mais quand il y a alerte et qu'il n'y a pas réaction, il y a de quoi se poser la question.
Et donc vous posez les questions en vous disant, mais c'est de mon droit de le faire.
Oui, ça.
Et étant donné que le Burundi perd toujours des personnes.
Il n'y a plus rien à démontrer que le Burundi est dirigé par des sauvages. Alors, il faut quand même trouver des mécanismes pour mettre fin à cela.
Est-ce que vous n'exagérez pas? C'est des sauvages ou c'est. On peut peut-être parler de criminels, mais de sauvages, ce n'est pas exagéré.
Écoute, les crimes sont commis par des sauvages. Alors, je reviens sur mon propre terme. Le Burundi aujourd'hui est dirigé par des sauvages. Parce que quand vous regardez des tueries, récemment même, vous avez vu comment on a, dans Bujumbura, fait des montages pour tuer des gens et consorts, juste pour des fins politiques, aboutir à certaines, des choses préétablies.
Alors qu'on les avait vus déjà arrêtés, dûment arrêtés. Donc ils ont été tués de sang-froid.
Voilà, en plus, ce n'étaient pas des personnes qui sont venues attaquer le Burundi, c'était des montages internes par le parti au pouvoir et le président de la République de Nkurunziza. Alors, tous ces rapports, quand ils sont produits devant des faits pareils et qu'il n'y a pas réaction de qui que ce soit, il y a quand même matière à se poser la question. Où est la communauté internationale? Où est la région? Voilà, c'est tout ça.
L'East African Community.
L'East African Community. Voilà,
c'est ça. Et donc, pour vous, vous sentez qu'il y a une certaine résignation ou, comment est-ce que vous qualifiez cela?
Si j'ose dire que même le peuple burundais est abandonné aujourd'hui, je n'aurais pas totalement tort. Parce que depuis 2005, même un peu avant, il y a eu toujours ces signaux d'alarme. Les rapports sont produits, tout le monde dit ça, on prend des sanctions par ici, par là, par rapport au Burundi. C'est parce qu'ils voient que, vraiment, réellement, ce pays est dirigé par d'une façon non démocratique. Alors, les rapports, comme mon ami a dit, les rapports ne pourrissent pas. Ils sont là. Peut-être qu'on aura à s'appuyer sur ça dans l'avenir. Mais pour le moment, ce qui est urgent, c'est ce peuple à sauver.
Voilà. Et donc, il faut des actions concrètes. Bon fils Nyongele, mais quand il est en train de parler de ces facteurs qui poussent à ce qu'il y ait urgence, qu'il y ait des actions concrètes, est-ce que pour vous, demain, lorsqu'il y aura un cinquième, un sixième, un septième rapport, un dixième rapport, vous direz toujours la même chose?
Je reste sur ma position. Pourquoi? Parce que demain après demain, lorsque un pouvoir est en train de tuer sa propre population, ça devient trop grave et ça atteint son paroxysme. Lorsque, comme mon grand frère vient de le dire, des tueries ont été observées dans Bujumbura, c'était vraiment aberrant. Parce que, à mon avis, ça devrait être poussé et la communauté internationale et nos hommes politiques à pouvoir trouver des voies et moyens.
Ce qui veut dire que vous le rejoignez il faut des actions concrètes.
Des voies et moyens pour pouvoir imposer le rapport de force politique et au besoin, le rapport de force militaire.
Et donc, vous le rejoignez, il faut des actions concrètes.
Il faut des actions concrètes. Et de la communauté internationale, et de nos politiciens, et même de la population burundaise en particulier. Puisque la population qui ne se rêve pas, qui ne dit pas non à l'injustice, elle est déjà mise pour l'esclavage. Comme le disait notre frère, je pense que c'est Thomas Sankara ou l'autre.
Et donc, vous poussez la population à se soulever, c'est ça?
Oui, il faut se soulever, dans la limite des droits. Peut-être.
Est-ce que ce n'est pas ce qui s'est passé en 2015?
C'est ce qui s'est passé et ça a été réprimé dans le sang.
Exactement. Et c'est ce que vous voulez qu'il se passe encore?
Non, il faut prendre d'autres tactiques. profère.
Peut-être qu'on ne va pas parler tactique en ce moment, ce n'est pas l'objet de cette édition. Emmanuel, ces rapports et donc ne rassurent pas beaucoup, visiblement. Faut-il les laisser tomber?
Non, il ne faut pas laisser tomber. Il faut toujours pointer du doigt. Parce que le problème se trouve à quel niveau?
Mais ne pas parler pour parler.
Non, voilà, ne pas parler pour parler. Le problème se trouve à quel niveau? Le Burundi vit une situation qui, dernièrement, vivait le Sud-Soudan. Ouais. Le Burundi vit une situation qui, dernièrement, vivait la Somalie. Et à ce moment-là, les organes des Nations Unies se sont levés pour secourir son peuple. Et pourquoi pas le peuple burundais? Le peuple burundais a besoin d'un secours immédiat. Et il y a urgence. Ces rapports, ce sont vraiment des signes avant-coureurs qui parlent de l'urgence. Sinon, demain, ça sera trop tard.
Mais vous donnez des exemples qui sont peut-être pas aujourd'hui les meilleurs, étant donné la situation qui prévaut toujours au Soudan du Sud.
Oui, c'est juste pour dire qu'à un moment donné dans ces pays, en se basant sur les rapports pareils, quand même, la communauté internationale s'est levée. Et pourquoi pas se lever aujourd'hui? Est-ce qu'on attend?
Et donc c'est un facteur positif, ne fût-ce que le fait que la
c'est pas mauvais. Les rapports ne sont pas mauvais. Le problème se trouve aux côtés des gens, des organisations qui doivent se lever pour dire basta, c'est fini, quand même, faisons quelque chose pour ce peuple qui souffre depuis des années. Ouais, c'est ça.
Je rappelle que vous suivez le Club de la Presse, une émission qui est produite en synergie par la télévision Renaissance et la radio RPA Inzamba Agathe Kakawe. Aujourd'hui, nous parlons de l'impact des différents rapports produits sur la situation au Burundi. Et pour cela, nous sommes avec Bonfils Nyongere, journaliste à la radio Inzamba Agathe Kakawe, et Emmanuel Ndereimana, secrétaire exécutif du parti UPD Zigamibanga. Et chargé de la communication de la coalition CEFOR Arusha. Bonfils, si les rapports n'apportent pas grand-chose, comme vous l'avez dit dans la première partie, pourtant vous avez dit que c'était important, est-ce que l'existence de la commission d'enquête a lieu d'être?
Oui.
À son importance.
Elle a lieu d'être et c'est pourquoi chaque fois on demande à ce que son mandat soit renouvelé puisque les violations des droits de l'homme continuent à se commettre au Burundi.
Quand vous dites « on », c'est qui « on »
Nous, personnellement, comme professionnels des médias, mais également nos chers frères défenseurs des droits de l'homme et de la société civile, nous demandons à l'entreprise le renouvellement du mandat. Pourquoi? Parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Demain ou après-demain. Vous avez entendu le procureur de la Cour pénale internationale parler des mandats qui sont sous-serrés. Jusqu'au jour de l'interceptation des présumés criminels. Puisque aujourd'hui, lorsque on dit que ces rapports sont des rapports de plus, on dirait que l'on n'emboîte pas du pouvoir sanguinaire de Bujumbura de dire que tous ces rapports sont sans effet. Non, les rapports aura un effet demain ou après-demain. Même aujourd'hui, les rapports ont un effet puisque ça alerte les Nations Unies, ça alerte la communauté internationale et ça nous démontre, nous comme médias et la population, de quel danger est entré qui guette le Burundi.
Et donc pour vous, quoi qu'il en soit, ces rapports sont quand même quelque chose d'assez important et qui donc demain, après-demain, pourront aboutir notamment à ces procès dont vous êtes en train de parler.
Oui, certainement.
En parlant de silence frappant sur la situation au Burundi, ça nous ramène sur le processus de dialogue dont on ne parle plus depuis pratiquement des mois et des mois. Est-ce que la résignation, peut-on parler d'une résignation totale, Emmanuel?
Écoute, nous, notre cheval de bataille au sein de la coalition, c'est de chercher à tout prix comment ressusciter les accords d'Arusha, parce que les accords d'Arusha, c'est un instrument vraiment on l'avait déjà expérimenté peut-être un an ou deux ans à l'époque, jusqu'à une certaine période avant que le président Nkurunziza cherche à multiplier les mandats pour lui, pour s'installer définitivement. Alors, si on parvient à trouver...
Sauf que vous ne pouvez pas le ressusciter tout seul.
Non, on ne peut pas, c'est ça. Nous travaillons à arrache-pied pour arriver à cela. Peut-être qu'avec ce rapport, les cris d'alarme que nous lançons aussi au sein de notre coalition politique se marient parfaitement bien avec ce rapport. Peut-être qu'un jour, les gens vont dire « Oh, pour que vraiment ça aille au Burundi, il faut que les gens se retrouvent autour d'une table, parler des questions, des problèmes du Burundi et trouver une solution. Ça sera vraiment une voie paisible pour sortir de cela.
Concrètement, que fait la CEFOR Arusha? Concrètement, rien qu'un ou deux exemples.
Parce que ces rapports-là, ils sont produits à base de quoi? Nous avons des gens au Burundi qui témoignent de ce qu'ils sont en train d'endurer du jour au jour. Vous comprenez? CEFOR Arusha est un canal pour canaliser toutes ces observations à partir du terrain vers ces experts, parce que vous savez que même ceux qui produisent ces rapports ne sont pas autorisés de mettre pied au Burundi. Alors, on les aide par tous les moyens pour trouver des gens qui peuvent collaborer avec eux, étant sur le terrain. Vous comprenez? Ça, c'est déjà grand-chose. Sinon, même ces rapports ne verront jamais le jour.
Sauf que ce que vous dites ne serait pas vraiment un avantage pour les Nations Unies, étant donné que les Nations Unies doivent être neutres.
Ils sont neutres, mais ils travaillent avec les personnalités physiques. Ces gens qui sont au Burundi, ils sont pas neutres. Ils sont dans des partis politiques, ils sont dans n'importe quoi. C'est à eux de juger, parce qu'ils ont d'autres mécanismes de vérification par rapport à une information donnée. Vous comprenez? Alors, nous nous rapprochons encore, surtout vers ces organes, la communauté internationale et tout, pour les faire comprendre qu'il est grand temps, s'il n'est pas encore trop tard, de nous faire asseoir avec ces gens qui sont en train de malmener et le peuple burundais, enfin de mettre toutes les questions sur la table, les débattre et trouver un consensus. Voilà,
c'est ça. Bon fils, est-ce que finalement le fait, vous avez reconnu vous-même qu'il n'y a pas d'actes concrets, qu'il y a effectivement des rapports, mais c'est bon d'avoir des rapports, mais qu'il n'y a pas d'actes concrets par rapport à ce qui se passe au Burundi, est-ce que finalement cela n'arrange pas le pouvoir en place?
Ça n'arrange pas le pouvoir, peut-être c'est le combat d'OTAN. Puisque c'est juste, ça arrange pour survivre aujourd'hui et demain. Mais survivre comment? Survivre enfermé dans ce pays, ne pas voyager étant un président de la République, ne pas avoir des relations diplomatiques avec les voisins, avec la région, mais également avec la communauté internationale, c'est pas survivre. C'est par contre s'enterrer vivant. S'enfermer.
Et donc, vous voulez dire que le pouvoir est fait de zombies, de morts vivants aujourd'hui.
Ce sont des morts vivants, des prisonniers à ciel vert. Puisque il y a la pauvreté qui bat son plein, il y a les disettes, il y a la malaria, il y a dernièrement, et récemment, qu'on a relâché la femme qui était emprisonnée avec son enfant de moins de deux ans. Récemment. Mais elle venait de passer presque une année en prison.
Près de 200 jours quand même.
200 jours, oui. C'est plus de la moitié d'une année. Puisque la moitié, c'est autour de 180 jours, oui. C'est plus de la moitié. Et voilà, même lorsque il y a des eaux de ruissellement qui emportent des vies humaines, qui emportent
des inondations,
ils ne peuvent même pas trouver de l'argent pour pouvoir canaliser les eaux. Mais ils trouvent de l'argent pour donner aux premiers potentiels.
Pour mettre les victimes à l'abri.
Ils ne trouvent même pas des victimes, de l'argent pour mettre des victimes à l'abri. Mais ils trouvent de l'argent pour donner au président, offrir au président qui accepte ou ne pas accepter de quitter pour pouvoir lui dire vous êtes guide suprême du patriotisme, vous allez avoir des milliards, alors que lui-même il sait que ces milliards n'auront pas lié.
Et donc pour vous, qu'il y ait des actes concrets ou pas, ça n'arrange pas du tout le pouvoir. Le pouvoir est mal en point.
Le pouvoir est mal en point, sauf qu'il est sauvé par les missions de maintien de la paix des Nations Unies, au sein de la MINUSCA et de la MISOM, qui est financée par l'Union européenne, mais également par les peu de moyens qu'il touche sur l'exploitation des minerais. Télérare de Gakara et l'or de Chito.
Et donc, ce sont des facteurs de survie pour le
mais,
pouvoir.
Mais par contre, ça ne devrait pas être des facteurs de survie, ça devrait être des facteurs de développement ou les leviers de développement lorsque ce serait un gouvernement stable avec...
On aura certainement le temps de faire une émission ou une édition sur ce sujet-là. Emmanuel, on tend vers la fin de cette édition. Que faire?
Alors, que faire? Il est grand temps que ces rapports, comme nous disions avec notre ami, sont considérés comme des signaux d'alarme. Il est grand temps que tout le monde qui se sent impliqué dans la question burundaise, quand même, cherche à organiser les concernés. Le pouvoir et l'opposition se retrouver sur la table de négociation.
Donc le maître mot, c'est le dialogue inclusif.
Le dialogue inclusif. Ce serait vraiment une voie de sortie pour le peuple meurtri depuis des années.
Au-delà du fait que ce soit juste un souhait, quel espoir que cela se produise effectivement?
C'est une question de temps, ça viendra. Oui, on a espoir.
Pensez-vous que les médias peuvent faire plus qu'il n'en faut, puisque nous sommes en train de s'acheminer vers la fin de cette édition, en parlant de solutions? Est-ce que vous pensez que les médias peuvent faire davantage qu'ils n'en font, bon fils? Par rapport à ces questions, pour qu'il y ait enfin des actions concrètes.
Je les encourage d'abord, puisqu'ils travaillent dans des conditions difficiles, mais lorsqu'il y a des rapports qui sont produits, les médias, il faut relayer, à faire des réactions par rapport à cela, et même des émissions pareilles pour demander à la communauté internationale de faire des actions concrètes. Je pense que...
Vous voulez dire comme celle qu'on nous sommes en train de faire, comme cette édition, notamment.
C'est l'édition qui est bien pensée. Et d'ailleurs, nos auditeurs, ce ne sont pas seulement les Burundais qui ont été privés de l'information. Même la communauté internationale nous suit sur les sports médias, différents sports médias que nous diffusons, sur lesquels nous diffusons.
Et donc c'est sur ces propos d'espoir que se termine cette édition du Club de la Presse. Merci à nos invités, Emmanuel Ndereyimana, secrétaire exécutif du parti PDS Gagnibanga et chargé de la communication de la coalition CFOR Arusha, et bon fils Niongere, journaliste à la radio Inzamba Gate Kakawe. Merci à tous les deux.
Merci
également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.
De la Presse, une émission produite en synergie par 3 médias, la radio publique africaine, la radio Indamba et la radio télévision Renaissance.
Le Club de la Presse offre aux professionnels des médias et aux invités un espace de débat et d'analyse des nouvelles nationales et régionales.
Cette émission est aussi un cadre d'expression à l'autocritique et à une analyse sans complaisance du travail des journalistes burundais.
Retrouvez le Club de la Presse tous les vendredis sur le www.rpa.bi ou sur le www.nzamba.org et sur la page YouTube de la télévision Renaissance.